Bien, monsieur Henri-Jean Martin, nous sommes heureux d'être auprès de vous aujourd'hui et nous tenons à vous
Je suis très heureux de vous
remercier.
voir.
Vous est-il possible de vous présenter donc brièvement et nous dire ce qui, donc, au cours de votre parcours, vous a conduit donc vers le métier des bibliothèques, vers les bibliothèques et peut-être vers le
D'accord.
NSB?
Eh bien, c'est très simple. Je suis né en 1924. Je n'envisageais pas d'autre métier que le métier militaire, mais j'avais 16 ans en 1940, et ce que j'ai vu sur les routes de France m'a quelque peu dégoûté du métier militaire. À ce moment-là, j'ai voulu faire de l'histoire, et je suis rentré en Cagne. Et des Cagnes, je suis passé en Charte, parce que mon père n'avait pas de situation et je devais très vite me sortir d'affaires. Et les Chartes, ça demandait un an au lieu de plusieurs années pour la Cagne. Donc je suis rentré à l'école des Chartes avec l'idée de faire l'agrégation en sortant de l'école des Chartes. Mais là aussi, j'ai eu un problème financier et Julien Quint, qui avait fait partie de mon jury de thèse à la sortie de l'école des Chartes, m'a promis de me faire une situation si je rentrais dans les bibliothèques. Alors je suis rentré dans les bibliothèques. Pendant 10 ans, j'ai été à la Bibliothèque nationale. J'ai mené la révolte, toutes les révoltes à la Bibliothèque nationale. J'ai été le bibliothécaire le plus mal noté. J'ai dit le 13 mai 1958 au conservateur en chef des imprimés que j'espérais qu'il serait remplacé par un adjudant de parachutiste. Non pour raison professionnelle, pour raison politique, mais pour raisons professionnelles. Et puis j'ai écrit l'apparition du livre. Je suis allé 4 ans au CNRS et Julien Quint, qui m'aimait beaucoup, a voulu ensuite me donner la direction d'un service à la Bibliothèque nationale et tous mes anciens supérieurs s'y sont opposés. Alors Julien Quint m'a convoqué, m'a dit qu'il ne pouvait plus rien pour moi, qu'il fallait que je parte à l'étranger, que je quitte les bibliothèques parce que j'avais trop d'ennemis. Et j'ai été candidat pour partir au Canada. Et à ce moment-là, j'ai été élu à l'école des hautes études, et par suite d'une série d'aventures, tout d'un coup, Julien Quint m'a imposé, bien que je n'ai pas l'ancienneté voulue, pour être directeur de la bibliothèque de Lyon. Je raconte ça parce qu'il y a une chose qui me frappe beaucoup par rapport à ce que sont actuellement les bibliothèques, c'est le fait que les relations entre les patrons et les membres des bibliothèques étaient des relations personnelles. Quand quelqu'un à la Bibliothèque nationale faisait quelque chose ou écrivait un article, Julien Quint le convoquait et lui parlait pendant un quart d'heure. Il connaissait parfaitement son personnel. Il allait dans les services et il savait parfaitement ce qui se passait. Il connaissait parfaitement son monde. C'était un monde qui était beaucoup plus humain qu'actuellement, où les supérieurs de n'importe quelle bibliothèque me semblent être embusqués dans leur bureau et ne pas oser pour pas sortir. C'était pas du tout la même chose. Et j'ai eu la même chose avec M. Denry, que j'ai très bien connu, qui a été véritablement aussi un ami pour moi. Et on ne peut pas avoir idée actuellement qu'était le type de relation qu'on pouvait avoir avec un patron, où on pouvait rester pendant assez longtemps dans son bureau. Je ne crois pas que ce soit parce que maintenant les gens sont surchargés. Je crois que c'est un phénomène qui a son importance. Et je vais prendre un exemple en étant un peu méchant. Actuellement, vous m'interviewez. Vous êtes surtout préoccupé de voir si votre machine marche, si votre appareil marche. Et si vous étiez venu avec des moyens beaucoup plus simples, un crayon et un bloc papier, la conversation serait évidemment beaucoup plus simple et beaucoup plus détendue. Vous auriez beaucoup moins de soucis en tête. Et c'est un peu ce qui se passe partout dans les bibliothèques et dans le monde à l'époque actuelle, où l'homme disparaît à travers un certain nombre de mécaniques et où, par exemple, une école risque d'être une école où on apprend à faire fonctionner des machines plutôt que d'apprendre ce qu'est véritablement le métier. J'ai vu ça en particulier dans une école de bibliothécaires étrangères, où on m'a montré des bibliothécaires apprenant à démonter des machines extrêmement compliquées. On m'a expliqué avec fierté que dans l'amphithéâtre, on pouvait faire le cours de 6 manières différentes, en enregistrant, désenregistrant, mettant le truc à l'envers, le truc à l'endroit, etc. Simplement, ce qu'on oubliait, c'était les paroles. De même, je pense que dans les bibliothèques, on oublie souvent qu'il y a des livres ou des documents, et on regarde tout ce qu'il y a autour, en voulant faire marcher le périphérique, plutôt que d'aller au fond. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important et c'est une leçon que j'ai tirée. Maintenant, vous pouvez dire je suis un vieux con. Je suis parfaitement d'accord, je suis un vieux con. Vous venez interviewer un vieux con, il vous parlera en vieux con. Il n'a pas à parler autrement. Voilà la réponse. Ensuite, quand je suis allé dans la bibliothèque, j'avais refusé de passer le DSB. Et Julien Quin m'a fait pendant un an passer dans tous les services de la Bibliothèque nationale. J'ai même été gardien, j'ai tout fait. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Et que je dois dire que quand je suis arrivé à Lyon, eh bien, la chose qui m'a le plus gêné, ça peut être les questions administratives. Les problèmes de restauration des livres sur lesquels je n'avais pas été formé. Et pour le reste, par exemple, pour la lecture publique, je sais bien que c'était le début de la lecture publique, c'était moins compliqué. J'ai été voir les spécialistes, je me suis renseigné pour savoir qui étaient les meilleurs spécialistes. Et à ce moment-là, j'ai appris d'eux ce qu'il fallait savoir pour la lecture publique. Autre temps.
Puisqu'on en est donc à l'évocation donc, de vos souvenirs et la découverte des bibliothèques. Bon, donc vous en étiez à l'évocation donc de vos premiers pas, enfin, de votre parcours dans les bibliothèques auprès et à la Bibliothèque nationale. Est-ce que vous pouvez aussi, est-ce qu'on pourrait vous demander de développer un peu plus les relations que vous avez eues avec Julien Quin et quelle part il a eue dans les différentes réflexions que vous avez pu vous-même ensuite conduire?
Eh bien, Julien Quin, il y avait entre nous un jeu qui était extrêmement drôle. D'abord, ceux qui ne savaient pas, c'est que dans sa jeunesse, il avait fait danser ma mère. Et je lui ai dit seulement quand il était à la retraite, et que j'allais le voir quand il était à la retraite. Et à ce moment-là, c'était très amusant parce qu'il m'a posé des tas de questions. Je connaissais parfaitement sa jeunesse. Et il me posait des tas de questions quand nous étions en tête à tête, qui m'amusaient beaucoup. Mais il ne le savait pas quand je l'ai connu. Je pense que je le jugeais avec une certaine dureté, parce que je trouvais qu'il ne faisait pas avoir assez de crédit aux bibliothèques. C'était un homme économe. Mais, si vous voulez, c'était quelqu'un de très humain, et c'est quelqu'un qui, dans un sens, a très bien géré la Bibliothèque nationale telle qu'elle pouvait être, dans la mesure où il en a fait quand même un établissement moderne, mais il y a deux époques chez Julien Quin. Il y a avant la guerre de 40, où il était quelqu'un de très actif, et après la guerre de 40, eh bien, il était très âgé, il a pris sa retraite à 80 ans. C'est le seul haut fonctionnaire que je connaisse qui a dépassé toute la retraite, car mon général avait déclaré que Julien Quin ne devait pas aller à la retraite, et donc on avait oublié sur un bureau son dossier de mise à la retraite. Et quand il a eu 80 ans, il m'a dit, écoutez, maintenant je trouve que ça suffit, donc je prends ma retraite, je vous préviens, je vais m'en aller. Les conversations avec lui n'étaient pas du tout techniques. Et il faut dire qu'à ce moment-là, en même temps, comme j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai été pris très jeune par un historien célèbre qui s'appelait Lucien Febvre pour travailler avec lui. Et là, j'ai été pris parce que j'avais fait une thèse dont on lui avait parlé. Et je me suis trouvé devant le même phénomène de paternalisme de vieux messieurs. Et si vous voulez, ils étaient tous les deux liés. Alors j'ai été très protégé, je dois dire, j'ai été très protégé. C'est une chose qu'on ne peut plus imaginer maintenant, si vous voulez. Et c'était quelque chose quand même qui était sympathique. C'était une toute autre atmosphère. Je ne vois pas les mandats actuels pratiquer ce genre de choses. Alors il y avait de la part de ces vieux messieurs certainement de la coquetterie, du type jeune que j'étais, qui était une coquetterie de vouloir laisser des souvenirs. Et aussi bien Lucien Febvre que Julien Quin m'ont raconté leur vie X fois. Ce qui concerne Julien Quin, je vous renvoie à la conclusion que j'ai faite dans l'histoire des bibliothèques, où j'ai essayé de donner un peu l'impression humaine de ce qu'était Julien Quin, qui a joué un rôle politique très important en France, puisque c'est lui qui a réconcilié Herriot et Blum quand il était directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Et puisque aussi il était l'oncle d'Edgar Faure, et je me souviens de les filles d'Edgar Faure servant le thé chez Julien Camp quand il était à la retraite, je me souviens de beaucoup de choses comme ça. Il était un peu snob, comme on était snob à cette époque-là, il était très fier, sa femme était très fière d'être liée à Paul Valéry, à un certain nombre de gens comme ça. Et moi, ça m'agaçait beaucoup, et ça amusait Julien Camp de me voir agacé quand sa femme disait hey, « Paul Valéry, il est bien connu, il était agacé !» Et Julien Camp, ça l'amusait. Mais je pouvais pas les histoires de bibliothèque, ça fait de bibliothèque si vous voulez. C'était pas du tout les mêmes que maintenant. On parlait beaucoup d'expositions, on parlait de choses comme ça. Question de gestion de bibliothèque, je viens qu'à n'en parler pas trop.
Ils étaient moins concernés peut-être aussi par la gestion. Ça les préoccupait moins, en fait.
Oui, il y a quand même eu. Il y avait quand même un problème. C'était le problème que, malgré tout, j'aime bien Julien Quint, mais. Et certains que les administrateurs successifs de la Bibliothèque nationale n'ont pas dominé un certain nombre de problèmes qui après ça leur sont retombés sur le nez. Je ne dis pas que la crise qu'ils soient à l'origine de la crise de la Bibliothèque nationale. La crise de la Bibliothèque nationale, c'est une crise des bibliothèques parisiennes. N'est-ce pas ? C'est parce qu'il n'y a pas de BU, c'est parce que vous avez qu'un seul centre Pompidou, c'est des choses comme ça qui font la crise de la BN. Mais ce qu'il y a eu, c'est que c'est la réorganisation technique de la Bibliothèque nationale a été mal vue. Et que les conservateurs en chef qui étaient là, qui étaient souvent des savants, souvent des gens valables, n'avaient peut-être pas, je dirais tout simplement assez de sens pratique, pour supprimer ce qui devait être supprimé, pour réorganiser les choses.
Et pour vos relations avec Lucien Febvre, qu'il a participé à la rédaction de l'apparition du livre avec vous ?
Oh, Lucien Febvre répète toujours la même chose, il m'a donné une préface ou un plan. Le reste, c'est une affaire de négronité littéraire. C'est-à-dire, j'ai été véritablement... si vous voulez, on réussit très bien à prendre le style, à rentrer dans la peau de quelqu'un quand il vous donne des idées générales. Et c'est ce que j'ai fait. Le livre, j'ai le manuscrit ici, en haut d'une armoire. Je pourrais vous le montrer. Il y a peu de corrections de Lucien Febvre. Mais je ne peux pas dire que Lucien Febvre était en dehors de ce livre. Je lisais beaucoup de choses de Lucien Febvre. Lucien Febvre parlait peu du contenu, me racontait sa vie, me racontait ses souvenirs, mais il y a eu une espèce de symbiose qui s'est opérée, qui est quelque chose de très curieux. Je vous dis, c'est le phénomène du nègre littéraire. Vous vous dites que vous allez imiter un écrivain, vous vous mettez dans sa peau et vous réussissez à l'imiter. C'est pour ça que je suis très agacé quand on me dit que l'apparition du livre, c'est le meilleur livre que j'ai fait, parce que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit de moi, bien que je l'ai écrit.
Avant de passer à la formation et à la création de l'école, est-ce que vous pouvez nous évoquer brièvement, malgré tout, ce qu'a été votre passage à la réserve ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Mon passage à la réserve, c'est très difficile d'en parler parce que je ne veux pas critiquer des gens qui sont disparus ou qui ne peuvent pas se défendre. Ce que je dirais, c'est que j'ai toujours été extrêmement agressif. Et que mon agressivité était développée vis-à-vis de mes supérieurs avec d'autant plus de vigueur que je savais que je serais soutenu par Julien Quint, qui me réconciliait régulièrement avec mes supérieurs. C'est une situation assez curieuse. Et ce que, au fond, je critiquais, c'était l'absence de sens scientifique dans le travail qui était fait, et c'est sans doute une absence d'organisation pour produire des catalogues qui sont valables. Pour moi, quelqu'un qui s'occupe d'un fonds ancien, c'est quelqu'un qui avant tout doit fournir un catalogue et ne pas vivre en montrant de beaux livres à quelques amis, si vous voulez. Et là, il y avait un travail d'organisation, rédaction des incunables, etc. Et je peux quand même vous raconter cette histoire, elle est drôle. J'embêtais tellement mes supérieurs qu'ils m'ont affecté au catalogage de l'enfer, ce qui m'ennuyait prodigieusement, dont je cachais les incunables sous les livres de l'enfer qui parsemaient les livres pornographiques qui parsemaient mon bureau, puisque je les cataloguais. Et au bout d'un an, bien qu'étant un homme de droite, je rédigeais les papiers du gardien syndicaliste qui était à la réserve, qui était mon ami Dessault. Je rédigeais ses papier, parce qu'il avait du mal à rédiger ses papiers. J'ai appris par lui que j'avais le droit d'adresser au ministre une lettre par la voie hiérarchique. Et j'ai adressé au ministre une lettre dont je peux vous réciter le contenu. J'ai l'honneur de vous rendre compte que depuis un an, l'essentiel de mon travail à la Bibliothèque nationale consiste à cataloguer les ouvrages érotiques et pornographiques, les collections en fer, flagellation, etc. Je me permets de vous signaler, premièrement, que le catalogue auteur de la Bibliothèque nationale, commencé en 1898, est actuellement à l'article Testa. Deuxièmement, que le catalogue des anonymes n'est pas commencé. Troisièmement, que le catalogue des incunables de la Bibliothèque nationale a été arrêté en 1914 à l'article Gregorius Magnus, catalogue des bibliothèques de France. J'ai l'honneur de vous demander s'il est de votre politique de faire passer en priorité le catalogage des ouvrages érotiques et pornographiques, entre parenthèses, série enfer, flagellation, etc. J'ai fait passer ça par la voie hiérarchique. Et la première fois, mon papier n'a pas été transmis. Moyennant quoi, j'ai donné une heure au supérieur en question, qui n'était pas le conservateur de la réserve, c'était quelqu'un d'autre, pour qu'il transmette le papier à Julien Quint, et sans quoi j'écrivais directement au ministre, puisqu'il ne faisait pas les choses. Le papier a été transmis à Julien Quint, et ça a valu à Julien Quint la plus superbe crise de fou rire qu'il a eue de sa vie. Moyennant quoi, d'ailleurs, je dois dire, il m'a convoqué, il m'a expliqué que j'avais bien la chance de cataloguer les livres de l'enfer, mais voyant que la situation était devenue impossible, il m'a fait nommer au CNRS dans les 15 jours qui suivaient.
La lettre a-t-elle été transmise au ministre ?
Ah non, la lettre a été arrêtée à Julien Quint, puisque on m'a chargé à ce moment-là de commencer le catalogue des incunables. C'est comme ça qu'on a commencé à faire le catalogue des incunables de la Bibliothèque nationale.
Voilà. Donc votre demande, en fait, a été suivie des faits.
Oui.
C'est une demande un peu détournée.
Oui, ça a été suivi des faits, je veux dire, ça a été suivi des faits, hein, des faits à long terme, puisque c'est pas moi qui ai fait. Et puis alors, il y avait aussi le Somme d'histoire pour le catalogue du 7e siècle, qui est absolument, si vous voulez. Alors là, j'en profite pour dire qu'il y a une chose qui est absolument scandaleuse dans les bibliothèques, c'est que tout le monde s'occupe beaucoup des bibliothèques, que malgré tout, les fonds anciens sont à vos lots. Maintenant, on commence un peu à s'occuper de les entretenir,
c'est-à-dire
à jouer un rôle, il y a quand même une politique. Et en ce qui concerne les problèmes de catalogage, et notamment à la BN, on dépense un argent fou, il n'y a pas d'équipe de catalogueurs. Je regrette, mais on peut avoir de très beaux catalogues, mais s'il n'y a pas des gens pour cataloguer, les livres ne sont pas catalogués, ben, ils ne seront jamais catalogués. Alors vous me direz que l'informatique permet de reprendre des choses, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas une hostilité à l'égard de ça, mais c'est que j'accuse très largement beaucoup des gens qui dirigent les bibliothèques d'incapacité scientifique. Ça ne va pas me faire que des amis, ça.
Changer un petit peu de sujet, mais rester encore sur votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous évoquer votre passage à Lyon et surtout en tant que directeur donc d'une bibliothèque, de la bibliothèque de la ville de Lyon,
oui,
comment vous avez senti
que...
le passage ensuite vers le corps professoral? Comment vous l'avez vécu ce passage?
Écoutez, je vais quand même vous raconter une histoire qui est assez personnelle, mais qui vous montrera le caractère extrêmement différent des bibliothèques. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que Julien Quint, un jour, m'a dit qu'il fallait que je fasse carrière à l'étranger, que j'avais trop d'ennemis, que je ne pouvais plus me souvenir. Et à ce moment-là, j'avais des problèmes, j'avais 3 enfants, et mon appartement à Paris était mis en vente. C'était la crise des appartements. Donc, j'ai été voir Julien Quint, je lui ai dit, donnez-moi le temps de respirer, une bibliothèque avec logement de fonction. À ce moment-là, il me l'a pas mal. Il m'a donné une bibliothèque dont j'ai appris qu'elle avait donné à mes camarades qui avaient été poursuivis par l'OAS en Algérie parce qu'ils étaient contre la torture. Bon, il se trouvait que moi, j'appartiens à une famille de militaires. Je dois dire que je raconte l'histoire, ça me gêne un peu de la raconter me concernant, mais je raconte à cause de Julien Quint. J'ai été immédiatement voir Julien Quint, je lui ai dit « je veux partir pour ça ». Alors Julien Quint me regardait avec amitié, il m'a dit « je vous donne Lyon ». Je lui ai dit « c'est pas possible, c'est la plus grande bibliothèque de province, s'il t'impose au conservateur en chef, je ne suis pas l'ancienneté ». Il m'a répondu « ça m'est égal, je vous donne Lyon ». C'est comme ça que j'ai été nommé à Lyon. Et ça vous montre le caractère extrêmement personnel qu'il y avait, et je ne suis pas du tout sûr que les histoires de points, etc., et les revendications syndicales, actuellement, aient fait tellement avancer choses pour l'époque où les rapports étaient beaucoup plus humains. Parce que bon, les rapports, on peut dire que j'étais très bien avec Julien Quint, mais quand Julien Quint était quelqu'un d'honnête, bien qu'arrivé par des milieux politiques, ça se faisait à ce moment-là. Et si vous voulez, je prétends que pour tous, ça pouvait être la même chose. Et il y avait des rapports et des types de relations qui étaient très différents de celles qui se font maintenant.
C'est vrai que les rapports humains avaient une très grande importance.
Alors, à Lyon, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que je suis tombé... Alors, j'ai eu une bonne succession parce que mon prédécesseur était un infirme de guerre, qui était lié avec Édouard Herriot, qui avait laissé un gros prestige, mais qui était un infirme de guerre, et donc les questions pratiques, ça n'allait pas. Et alors, je suis arrivé là, et j'ai fait exprès de faire un excès de vitesse devant la mairie, et de rentrer en voiture dans la mairie, d'occuper la place d'un élu, pour marquer mon terrain. Et il s'est trouvé que ça a très bien marché avec le maire, qui était Pradel, qui était un très brave type, qui avait arrêté ses études à 15 ans, et qui respectait beaucoup les intellectuels. Et pour construire la bibliothèque de Lyon, je me rappelle que je suis attendu avec l'urbaniste, on a fait une maquette, et j'ai réuni les industriels de Lyon. Et je leur ai dit, messieurs, je ne vous demande pas pour une fois votre argent, je vous demande votre crédit pour me faire avoir des subventions de Paris. Alors ça leur a plu tout à fait. J'ai été persona gratissima à la préfecture et j'ai pu obtenir le maximum de subventions pour fabriquer une bibliothèque. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que la bibliothèque, je l'ai faite tout seul. Je n'ai pas pu, il fallait que je travaille très vite, je n'ai pas pu me faire aider par mes adjoints qui m'ont proposé de m'aider, mais je me rappelle qu'un jour il y avait une réunion et j'avais mes adjoints qui avaient accepté, qui étaient là, et puis en face, une grande table avec l'architecte, d'un côté l'architecte, d'un côté les gens, puis je me penche vers les plans pour regarder l'architecture. Puis je lève la tête, je vois tous mes gens, j'avais foutu le camp, et celui de l'architecte était là, il était 6h01. Bon, dans ces conditions-là, on doit travailler seul. Et donc la bibliothèque, je l'ai faite seule, c'est-à-dire que pendant 6 mois, maintenant je finissais ma thèse, j'ai dormi 3 heures par nuit, ça m'a valu une magnifique dépression l'année suivante, bien entendu. Alors cette bibliothèque, qui peut être critiquée, en fait, compte, je l'ai payé cher et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Lyon. Je ne pouvais plus à la fois faire des travaux scientifiques et veiller à une construction comme ça. Je crois qu'elle a été critiquée, cette bibliothèque. Je suis prêt à la défendre. Il y a, compte tenu des problèmes qui ont eu lieu, et quand je vais la voir, mon problème a l'air de marcher. Et de même, les réseaux de lecture publique maintenant sont débordés. Et quand je suis arrivé à Lyon, il y avait une bibliothèque de lecture publique à la Croix-Rousse, qui était dans une salle de la mairie, et c'est tout ce qui restait de la lecture publique. Ça s'est pas mal développé, mais je me rappelle, avec une certaine mélancolie de mon départ de Lyon, le gros œuvre était fait, j'ai franchi la balustrade, j'ai fait le tour de la bibliothèque, telle qu'elle j'imaginais, j'ai vu telle que j'imaginais, le gros œuvre était fait, j'ai pris le train, et ensuite, je ne suis pas revenu la voir pendant plusieurs années.
Donc c'est vous qui avez choisi de passer, de revenir dans le corps professoral, alors comment s'est passé ce passage?
C'était une histoire assez compliquée, j'étais nommé très jeune à l'école des hautes études, donc une circumulante. Donc je faisais des cours à Paris et j'étais bibliothécaire à Lyon. Donc tous les lundis j'allais à Paris, je faisais cours aux hautes études et à l'ENSP qui était à Paris. Je partais le dimanche soir, je revenais le lundi matin. Le lundi soir, le mardi, je mettais à l'heure d'être à 9h à mon bureau. C'est le seul jour où je surveillais la rentrée des gens pour bien marquer que j'étais rentré. J'étais un peu fachio. Et puis, en revanche, je travaillais le samedi. J'avais levé à la municipalité que je prenais mes lundis et je travaillais le samedi. Donc, j'ai pu faire ça parce que j'avais un appartement de fonction. Donc, un appartement de fonction, ça épargne beaucoup de choses. Et puis, c'est un moment. On peut aller se détendre pour le déjeuner, je pouvais me détendre, donc je pouvais mener cette vie. Mais si vous voulez, je ne pense pas qu'un bon directeur de bibliothèque, c'est un homme enfermé dans son bureau et qui travaille 24 heures sur 24. Mes horaires étaient très fixés à Lyon. J'ai quand même à cette époque-là, c'est quand même un gros poste. Hein. Le matin, j'arrivais à 9h. De 9h à 10h30, je faisais mon courrier. C'est-à-dire que je dictais mon courrier, je renvoyais le courrier de la veille, généralement je le faisais taper. De 10h30 à midi, je faisais le tour des services et j'arrivais les mains dans les poches sous prétexte de bavarder. Je faisais parler les gens et comme ça, je voyais comment fonctionnaient les choses et je voyais comment fonctionnaient les services. De midi à 1h, j'étais enfermé avec ma collaboratrice, Mme Guillien, qui s'occupait de la lecture publique et on s'engueulait souvent. on discutait de la gestion, c'est une ancienne administrateur civil, une femme forte, intelligente, qui me jouait un rôle de conseiller. Et puis, généralement, j'allais déjeuner à 1h. Et l'après-midi, ben, j'étais quand même relativement libre pour faire le tour de beaucoup de choses. Et le soir, à 6h, je sortais régulièrement, soit promenade avec ma femme, soit sortie officielle. Et là, je hantais tous les cocktails et tous ces trucs-là, parce que c'est important pour un conservateur de se fabriquer une image de marque. Mais je n'ai pas le souvenir que, sauf quand il y avait un problème de construction, quand j'ai eu à revoir les plans, ce qui était très difficile, c'était de revoir les plans pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur. Par exemple, je me suis aperçu que l'architecte avait fait un couloir qui ne faisait que 1,90 m de haut. Alors, j'ai convoqué, j'ai dit le bibliothèque général de Gaulle, et puis après, il a dit à la bibliothèque, votre couloir, il est 1,90 m de haut. Non, après, dans l'histoire, on va réussir le truc. On est obligé de tout voir pour ces choses-là. Alors, il y a des choses que je n'ai pas assez revues, mais ça, ce n'est pas ma faute. Par exemple, j'ai appris qu'il y a un défaut actuellement dans la bibliothèque, c'est pour les réseaux informatiques, le passage des câbles. Or, là, j'avais demandé à l'architecte de prévoir, mais comment voulez-vous qu'en 1964, on puisse prévoir la grosseur des câbles utilisés 30 ans plus tard? Alors, l'histoire, la difficulté, la tour, j'avais bien réfléchi. La tour, c'est pas comme la tour de Tolbiac, il n'y a qu'une tour qui permet une distribution d'éventail. Ce qui est raté dans la bibliothèque, c'est qu'il y a beaucoup trop d'espace libre. Mais j'avais prévu, à ce moment-là, de faire des activités sur les paliers. Et alors, je dois dire que ce qu'il y avait à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas la crise pétrolière. On n'avait pas du tout prévu les problèmes de chauffage, etc., si vous voulez. Alors, évidemment, les tours, ça implique une bonne climatisation, ça implique des choses comme ça. Mais, en fait, je vous dirais, si j'écrivais mes mémoires, j'écrirais la phrase de Piaf que j'ai mise en tête d'un livre qu'on m'a fait faire en Amérique, qui est un livre sur ce que j'avais fait sur le XVIIe siècle français. Je ne regrette rien, je crois que pour la vérité de Lyon, je ne regrette rien. On puisse dire.
Oui. Nous pouvons donc changer un peu d'axe de conversation et nous diriger vers ce qu'était la formation, donc orienter vers la formation et la création de l'ENSB. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la formation suivie lorsque vous-même vous avez accédé aux fonctions donc dans les bibliothèques
et oui,
notamment.
Je comprends bien de votre question.
Voilà.
Alors, écoutez, j'aborde des problèmes qui sont assez délicats. Je vais essayer d'y répondre avec clarté, avec netteté, et en vous disant l'essentiel. Premièrement, il y a un problème, c'est le problème des relations de l'école des chartes avec les professions. Je dirais que c'est un long problème et je ne sais pas si vous savez que vers 1900, l'école des chartes a failli littéralement exploser parce qu'il y avait un certain nombre de chartistes qui voulaient transformer l'école des chartes en école professionnelle pour les bibliothèques et les archives. Il y avait parmi eux Ernest Koyek qui était un grand savant et qui s'est occupé de la lecture publique à Paris. Et un jeune chartiste qui s'appelait Charles Bréban, qui est plus tard devenu directeur des archives de France, il était à ce moment-là le fils du garde des Sceaux. Et il y a eu des bagarres absolument infernales. Et ces bagarres, il faut bien les comprendre, dans la mesure où l'école des chartes est une école scientifique, qui a un message scientifique à transmettre, et une école qui forme des fonctionnaires. C'est une sorte de double casquette qui se justifie parfaitement dans la mesure où il est utile dans les bibliothèques qu'il y ait des historiens et où il est utile qu'il y ait dans les bibliothèques des gens qui aient fait de la recherche. Ceci n'a pas empêché, contrairement à ce qui a été prétendu souvent, les chartistes d'être souvent à l'origine de la lecture publique. Vous n'avez qu'à regarder dans l'histoire des bibliothèques les noms des gens. Enfin, moi, je sais quelqu'un comme Charles-Victor Langlois, qui était directeur des archives, a été un militant de la lecture publique et a fait beaucoup pour la lecture publique, par exemple. Bon, alors il y avait ce double aspect, mais où il y avait une tendance, qui avait une tendance à être oubliée. Je me rappelle que quand j'étais à l'école des chartes, les cours les plus ennuyeux étaient ceux de bibliographie. La bibliographie n'est pas quelque chose de très marrant. Hein. Et qu'on voyait ce spectacle, qui était très nuisible, d'un DSP, c'est-à-dire des diplômes supérieurs des bibliothèques, qui était confié à l'école des chartes, et on voyait les futurs bibliothécaires arriver se précipiter au dernier rang de l'école des chartes et se tasser dans le fond de la salle, pendant que le professeur de bibliographie faisait son cours. C'était quelque chose de nuisible et c'était quelque chose qui était très mal ressenti par les bibliothécaires qui n'étaient pas chartistes. Et la création de l'ENSB, c'est une chose que j'ai très bien connue, parce que l'adjoint de Julien Quint était Pierre Lelièvre, qui est toujours vivant d'ailleurs. Et c'est lui le véritable créateur de l'ENSB. Il était très proche de Paul Salvant, qui était la première directrice, avec laquelle j'ai eu des relations relativement passionnelles, conflictuelles. Et conflictuel et amical, et très amical et très conflictuel, on s'engueulait comme s'engueulent des amis. Et si vous voulez, c'était surtout Paul Salvant qui voulait créer une école. Et Julien Quint, pendant très longtemps, a demandé à l'école des chartes ce qu'était sa position. Et l'école des chartes a eu une position qui était tout à fait réservée et qui était de sauvegarder le rôle scientifique de l'école des chartes. Les chartistes sont par instinct des conservateurs, dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Et moi je sais que j'y suis souvent opposé avec eux, dans la mesure où je leur ai dit que quand une évolution devait se faire, il fallait la faire, il fallait savoir la faire. Alors c'est dans ce climat-là que on a transformé le DSB en école des bibliothécaires. Julien Quint voulait 2 ans. Il me l'a souvent raconté. Et un inspecteur des finances a fait, comme font toujours les énarques, un rapport sur des choses qu'il ne connaissait pas, en disant qu'il fallait 1 an, qu'un an suffisait. Donc le NSB a eu 1 an et c'était un habit un peu trop étroit dans la mesure où une formation professionnelle existe des stages et où si on veut former quelqu'un et lui faire faire des stages, 1 an c'est pas suffisant. C'était donc quelque chose de pas suffisant. Il n'empêche que l'ENSB, première manière, celle qui était à Paris, n'a pas du tout été quelque chose de nul. Moi on m'a fait la grâce de m'engager pour enseigner l'histoire du livre alors que j'étais très jeune, c'est là que j'ai fait mes premières armes comme enseignant, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'était de la part de Mlle Salvat assez courageux, puisque je vous ai raconté ma position dans les bibliothèques, où évidemment, les inspecteurs généraux, les conservateurs en chef et les conservateurs devant le nez de qui je passais pour faire un enseignement professionnel, pas très contents. Il y avait, pour la bibliographie, une grande dame, qui était Marie-Noëlle Maclef, qui avait un feu sur la langue, qui était quelqu'un de tout à fait remarquable. Et il y avait aussi pour la documentation une dame qui, si je me souviens, s'appelle Rosenbaum et qui traitait de documentation d'une manière un peu floue, mais je crois que la documentation est une technique qui n'existe pas et qui, par conséquent, est obligatoirement traitée d'une manière floue, de même que les techniques des communications pour lesquelles, j'avoue, ne peut avoir le grand respect que certains autres éprouvent. J'ai d'ailleurs des preuves à l'appui pour dire que c'est une sous-technique. Alors, ceci étant dit, pour le supprimer, ça.
On aura peut-être des précisions.
Alors, ceci étant dit, il y a eu ensuite un problème, c'était de donner un rang universitaire à l'ENSB. Et Dénry s'est mis en tête de me faire nommer directeur au départ de Mademoiselle Salvant. Même avant le départ de Mademoiselle Salvant.
Elle est restée longtemps, Mademoiselle Salvant.
Il a voulu balancer Mademoiselle Salvant. C'est ça, ça me revient. Et là, j'ai refusé parce que je lui ai dit que j'avais personne à balancer. Et j'ai refusé. Puis si je me souviens bien, au départ de Mademoiselle Salvant, j'ai eu avec Dénry alors une séance dramatique où il m'a gardé 2 heures dans son bureau en voulant que j'accepte et où j'ai refusé. Et une des raisons pour lesquelles j'ai refusé, c'est que j'étais chartiste. Et que ça me mettait en fausse position. C'est très discutable, d'ailleurs, c'est très discutable. Une autre fois, il était question, je suis nommé directeur des bibliothèques quelques années plus tard, j'étais déjà professeur à l'école des chartes, j'envisageais un truc cumulant, etc. Mais là, j'ai senti très nettement des oppositions qui m'ont été manifestées par des gens que vous connaissez, que je ne mentionnerai pas. Alors, voilà ce qu'a été cette histoire. ce que j'ai fait, moi, le rôle que j'ai eu, parce que j'aimais bien l'ENSIB, et j'estimais qu'il était nécessaire qu'il y ait une école, ne serait-ce que sur un plan psychologique, pour que tout le monde soit sur le même plan, parce que Mlle Salvant était extrêmement amère. De ce point de vue-là, j'estimais qu'il était nécessaire qu'il y ait une ENSIB, mais j'estimais qu'il était aussi nécessaire qu'il y ait des chartes dans les bibliothèques. Et je peux dire que quand j'étais le même professeur à l'école des chartes, c'était en 71-72, il n'y avait plus de chartistes dans les bibliothèques. Et je crois que maintenant, on réussit à avoir un régime où il n'y a plus de concurrence. Je pense que maintenant, il n'y a plus de concurrence. Pour dire tout ce que je pense qu'au compte tenu de leur formation antérieure, il ne serait peut-être pas nécessaire que les chartistes restent 18 mois à l'ENSIB, qu'un an suffirait peut-être. Mais je pense que le fait qu'ils soient dans la même école que leurs futurs collègues est une chose qui est strictement indispensable si on veut avoir un climat qui soit convenable dans les bibliothèques. Et je dois dire que je suis assez fier, parce que moi, je n'ai jamais caché mon drapeau, même à l'école des chartes, c'est secret pour personne que j'étais dans l'opposition, qui défendait plutôt des positions plus professionnelles, ça c'est bien entendu. Mais si à l'école des chartes, je me suis engagé très fort avec les gens de l'école des chartes, j'ai toujours été drapeau en tête à l'ENSIB en disant aux gens que j'étais chartiste, et ils l'ont très bien avalé, parce qu'ils l'ont très bien admis, et je pense que s'il y a une paix qui a été rétablie, j'ai quand même joué un petit rôle dans le rétablissement de cette paix. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, en ce qui concerne le déménagement à Lyon de l'ENSIB, c'était peut-être faisable, mais ça a eu, c'était peut-être souhaitable, mais ça a eu quand même de gros inconvénients. C'était voulu par quelqu'un dont on parle beaucoup dans les journaux actuellement. Je crois bien que c'est l'époque où Jérôme Monod était directeur d'aménagement du territoire. Et Dinery, leur grattait, hein. Dinery grattait le passage de l'ENSIB à Lyon. Maintenant, ça peut offrir des avantages, mais le véritable problème, au fond, c'est un problème philosophique, c'est de savoir ce que doit être un conservatoire de bibliothèque. Si les conservatoires d'une bibliothèque scientifique peuvent avoir la même formation que les bibliothécaires de lecture publique, etc., ce qui doit être commun, ce qui ne doit pas être commun, ce qu'il faut mettre en priorité, si c'est une formation de base solide ou si c'est une formation technique. Moi, je dirais évidemment que c'est une formation de base solide. Il y a aussi un problème de traitement. Maintenant, et grâce à la gauche, je suis un homme de droite, alors je peux le dire, c'est grâce à la gauche que les carrières ont été valorisées de telle manière que maintenant, on devrait avoir des gens de bon niveau qui s'engageraient là, et même parfois, je suis un peu rêveur quand je vois des nominations de conservateurs généraux et quand je pense que ça leur donne un rang égal à celui de prof de fac. Vraiment, le métier dans lequel vous êtes n'est plus un métier sous-développé. Maintenant, ça, on peut le dire. C'était dû en grande partie, d'ailleurs, aussi aux efforts faits pour développer la lecture publique. Alors là, je pourrais vous parler très longuement du développement de la lecture publique, parce que je suis occupé comme beaucoup de ces choses-là. Et il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de mérite de développer la lecture publique. Je pense à des gens comme Fillet. Fillet enseignait la lecture publique à l'ENSIB. C'était pas un professeur, mon ami Fillet est un garçon qui était formé sur le tas, mais c'était un garçon de grand mérite. Et là, il y a eu toute une bande de gens avec qui je m'engueulais parce que on n'avait pas exactement la même formation. Mais ces gens-là avaient de la valeur. Et pour vous raconter une anecdote qui vous montrera comment tout cela était personnel et différent de maintenant, Denry, qui était un ancien diplomate et qui se méfiait de ses adjoints, avait suscité la création d'un groupe clandestin où il y avait Fillet, moi, Desgraves, Vaillant, qui sont à la retraite maintenant, Bouvy, le Cambrai, qui s'occupait de lecture publique, Richter, puis un ou deux autres, une demoiselle Finsweiler qui s'occupait de BCP, pour réfléchir sur les bibliothèques, et notamment au moment de ce qu'on appelait la loi Bruguière, la loi sur la lecture publique qui a été faite par Pompidou. C'est dans la maison de campagne de Fillet qu'on a revu les textes. Et alors on les donnait à Denry, après ça Denry allait s'opposer avec Poindron, et puis finissait par faire ce que voulait Poindron, qui était son adjoint. Mais vous voyez, les rapports étaient très personnels, c'était très différent de maintenant.
Les chartistes ne font pas 18 mois à l'ENSIB, ils font un an, ils entrent en janvier.
Ah, ils font moins.
Oui, ils font donc logiquement.
Je vous dirais que là, j'ai perdu contact un peu. Oui. Oui.
Enfin, c'est bon, le cas des promotions. Cette présente, qui, de... la promotion
enfin, je vous
qui
dis
est
ça,
avec
je vous dis ça en toute liberté.
Oui, non, mais je voulais vous donner l'information.
Oui, oui. Ils rentrent en janvier, vous rentrez en novembre.
Oui. Je crois qu'ils soutiennent.
Ils soutiennent, c'est-à-dire ils remettent leur thèse le 15 novembre. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner davantage de précisions sur la nécessité comment est apparue la nécessité de la création d'une école et puis le contexte.
Bien, d'après ce que m'ont dit Julien Quin, et je crois que Pierre Lelier ne dira pas le contraire, la création de l'ENSIB s'est imposée à partir du moment où on a constaté que par le système du DSB, on n'avait pas assez de candidats. Parce qu'à ce moment-là, on trouvait des postes partout, que les postes de bibliothécaires étaient mal payés, et qu'on a trouvé que c'était uniquement en payant les études des bibliothécaires qu'on pourrait faire un recrutement suffisant. C'est une époque où il y avait, on recrutait 100 bibliothécaires par an, hein, c'était énorme. Alors, ça a été la raison essentielle qui m'a été donnée par Julien Quin. Il y en avait aussi, c'est qu'il y avait depuis très très longtemps la réclamation. On réclamait une école professionnelle et je pense que l'école professionnelle était peut-être nécessaire moins pour la formation des bibliothécaires que pour le développement des sciences, des techniques et des sciences des bibliothèques. Si vous voulez qu'il y ait un lieu de réflexion pour le développement des techniques et des sciences des bibliothèques, c'est peut-être là que les choses devraient évoluer à mon avis. Il devrait y avoir quand même des centres d'études, etc., qui soient rattachés à l'ENSIB, chose qui ne peut pas être faite actuellement parce qu'on manque de crédit, mais en admettant qu'il y ait 30 nouvelles glorieuses, eh bien c'est quelque chose qui s'imposerait d'autant plus que de mon temps, il y avait dans les bibliothèques des services techniques qui fonctionnaient pas mal, et que maintenant ces services techniques me semblent relativement atomisés, il y a des répartitions dans les régions, etc. Et il me semble qu'il y a un centre de réflexion, de colloque, de discussion, etc. près d'une école, ce serait quelque chose qui serait extrêmement utile. Alors pour l'ENSIB, quand le Lièvre l'avait prévu pour lui demander, je me souviens qu'il m'avait parlé de 18 mois, et qui m'avait parlé d'un an de cours techniques et de 6 mois de spécialisation et de stage, et que là, ce que je faisais à Lyon l'intéressait dans la mesure où il devait y avoir un musée de l'imprimerie, et qu'il était entendu que la formation en matière d'histoire, du livre, etc., pourrait être complétée à Lyon auprès du musée de l'imprimerie. Vous voyez, si on arrivait à une formule différente, mais où Lyon devait avoir de la place. Alors Lyon, là je m'excuse de dire ça parce que c'est un peu prétentieux, mais si l'aménagement du territoire a imposé Lyon, c'est parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour construire une bibliothèque.
Et vous savez qu'on est actuellement, se développe aussi pour la création d'un DEA en histoire du livre.
Oui, je sais.
Vous êtes au courant de...
Je sais, je suis au courant.
Est-ce que... au niveau de cette création, est-ce que vous pensez que ça pouvait, vous l'avez un peu dit en fait, au niveau de du recrutement en fait, ça pouvait permettre d'attirer peut-être les gens plus compétents et mieux reconnus, la création donc d'une école.
Je ne pense pas plus compétents, enfin si vous voulez, en plus grand nombre. Et je dois dire que le recrutement dans les premières années a été assez brillant.
Est-ce que c'est, oui.
A été assez brillant. Je me rappelle que les premières promotions étaient des promotions avec des gens qui était très fort. Je n'en citerai qu'un seul, c'est le petit Mangin, qui est le bibliothécaire d'école normale, que j'ai eu comme élève là. J'ai appris qu'il était normalien le jour où il était absent à un cours. J'ai dit, ouais, petit Mangin, m'a répondu, il est anormal. Alors, je n'ai pas compris ce que voulait dire anormal.
Est-ce que, oui, vous dites donc des gens de haut niveau, est-ce que vous avez une, ou vous pouvez nous exprimer comment a été perçu le métier de conservateur de bibliothèque? Quelle était l'image? Bon, il était mal payé.
Vous savez, la conversation du général de Gaulle, un jour, le général de Gaulle dit à un de ses amis, oh, j'aurais dû me faire bibliothécaire, j'aurais entretenu avec le chanoine qui aurait dirigé la bibliothèque d'en face des relations conflictuelles et j'aurais échangé avec lui des articles venimeux dans des revues savantes, cela m'aurait occupé. C'était un peu la vision qu'on en avait. Évidemment, le changement a été perçu. Il y a un très grand changement, si vous voulez. Le très grand changement a été perçu avec le développement de la lecture publique. Là, je l'ai vu à Lyon. À Lyon, au départ, Rio voulait bien développer la lecture publique à condition de ne pas payer de fonctionnaires et que ce soit des bénévoles. La lecture publique s'est développée à partir de Villeurbanne, où il y avait une mairie socialiste qui s'en est occupée. Et quand la lecture publique s'est développée, tout d'un coup, les adjoints, les maires, etc., se sont aperçus que la bibliothèque était quelque chose de populaire. Et alors là, ça a joué un rôle très important. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez dangereux, parce que maintenant, il y a une race de maires, hélas, que je connais, et qui fait que quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent un conservateur de leur parti. Et là-dedans, moi, je suis très surpris actuellement de voir que aussi bien dans les universités que dans les municipalités, il y a des problèmes, les conservateurs ont des problèmes. Dans les universités, les professeurs qui croient savoir tout et qui ne savent rien veulent diriger le bibliothécaire et souvent font des erreurs. Et dans les municipalités, les adjoints maires s'occupent beaucoup trop des bibliothèques et souvent ils n'y connaissent rien. Et là, si vous voulez, c'est une conséquence du développement des bibliothèques et du changement de son image de marque. Mais son image de marque a changé. Il ne faut pas dire, n'est-ce pas, que la lecture publique a été créée par Jacques Lang. La lecture publique s'est développée naturellement et a été favorisée par Pompidou avant. Mais le changement de perspective des bibliothèques, moi j'ai très bien vécu, je suis arrivé à Lyon en 62. Entre 62 et 72, la vision que la ville avait de sa bibliothèque a totalement changé. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez général, lié ça à la lecture publique, etc. Maintenant, la bibliothèque tient un rôle dans la ville.
La perception du métier par les professionnels eux-mêmes, est-ce que vous pouvez nous en dire? Et comment aussi était-elle perçue à l'étranger? Est-ce que vous pouvez nous...
C'est un problème extrêmement difficile. Dans un pays comme l'Angleterre, qui a servi longtemps de modèle, les conservateurs des grandes bibliothèques n'ont pas de formation professionnelle, à ma connaissance, même j'en suis sûr. Ce sont des docteurs d'université à Oxford, on prend des docteurs d'université. Et ces pays qui ont une très grande, des écoles, de très nombreuses écoles de bibliothécaires, les écoles de bibliothécaires vont surtout dans les centres de lecture publique, peut-être dans certaines bibliothèques universitaires, etc. Il y a donc.
Donc, est-ce qu'on peut reprendre? Nous en étions en train de parler, donc la formation dans les pays.
Ce que je vous disais, dans les bibliothèques, dans les pays anglo-saxons, dans ce que je connais, même dans presque tous les pays, les bibliothécaires sont très souvent recrutés. Les bibliothécaires des bibliothèques patrimoniales, je dirais, sont souvent recrutés en dehors des écoles, parmi les docteurs d'université. Vous avez un recrutement qui est fait beaucoup plus à la tête du client qui peut aller à un poste désigné, déterminé, n'est-ce pas? Alors, la situation, vous le voyez, est assez différente de la situation française. L'unité du corps présente un avantage, mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les conservateurs de bibliothèque me semblent ne pouvoir être valables que dans la mesure où ils ont une très solide formation générale, ou une très solide formation scientifique même. Et il serait même utile qu'ils aient fait souvent un peu de recherche, n'est-ce pas? Ce qui implique un recrutement, je dirais, au niveau DEA, au moins au niveau DEA, me semble-t-il. Vous voyez, alors la formation professionnelle, en tout, qu'est-ce qu'elle doit être? Il est très difficile, on n'a jamais résolu le problème de la formation.
Alors c'est un peu justement la question qu'on voulait
demander. On n'a jamais résolu
demander.
Le problème de ce qui doit être enseigné. C'est très difficile.
Voilà.
Le contenu
comment, oui, par rapport à l'ENSB et au programme qui était donc dispensé au niveau à l'ENSB et auquel donc vous avez participé, que pensez-vous? Vous connaissez le contenu des programmes de l'ENSIB? Est-ce que vous pouvez
dire que depuis 5 ans à peu près, j'ai perdu contact avec l'ENSIB. Oui. En gros, depuis que Kerrigué est arrivé au pouvoir. Mm. Et même avant, je perdais petit à petit contact. Il ne faut pas oublier que maintenant, j'ai quitté les bibliothèques depuis longtemps. Oui. Et que par conséquent, il m'est assez difficile de parler d'un certain nombre de problèmes. Ce que je dirais, c'est que les problèmes étaient beaucoup plus simples de mon temps, où il y avait une moindre diversification des bibliothèques et une moindre technicité. Oui. Mais ce que je dirais également, c'est que ce qui me frappe, c'est que j'ai un petit peu l'impression que les bibliothécaires actuels, je me permets de faire une critique, vous m'interrogez, je suis vieux, donc je donne le point de vue de quelqu'un de ma génération, on a quand même l'impression que les instruments priment sur les finalités.
Oui, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure.
N'est-ce pas ? C'est une chose qui, personnellement, m'agace un peu. Quand j'étais jeune, vous savez, je me suis occupé beaucoup d'informatique. J'ai même fait une théorie informatique qui demeure, c'est une théorie linguistique. Je me suis occupé pas mal de l'informatisation des bibliothèques. Et d'ailleurs, il faudrait bien expliquer pourquoi la branche française, le système français n'a pas marché. On était obligé de s'accrocher aux Américains. Mais ça, c'est un problème, je pense, qu'on ne peut pas aborder ici. Donc, je ne suis pas du tout hostile à ces questions-là. Il y a plein d'ordinateurs chez moi. Il y en a un dans chaque pièce. Mais ce que je dirais, c'est que tout ça, c'est des instruments. Donc, il faut savoir au service de quoi on le met. Et par ailleurs, si vous voulez, ce qui me gêne dans le système des communications, si vous voulez qu'on aborde tout de suite ce problème, on peut l'aborder.
Comme vous voulez.
Dans le système des communications, ce qui me gêne, c'est que c'est des séries de recettes de marketing et que, personnellement, je vois mal que les bibliothèques, sinon sur certains aspects de la lecture publique, aient à s'occuper beaucoup de marketing et de choses comme ça. Je dirais même que moi, ça me fait hilarer. Et je crois que je ne suis pas le seul.
Vous ne voyez pas donc quand même le rôle, l'importance du rôle qui est de mettre à disposition certains documents, de pouvoir procurer le contenu d'un document de façon plus rapide à certains chercheurs ou à certains...
C'est ça, le problème n'est pas celui-là.
Il est aussi celui-là, il est quand même une partie.
Dans le problème des communications, dans le problème du marketing, c'est pas exactement ça. Que moi, je suis le premier à vous péter. Et toute ma vie, j'ai été comme ça, quand les documents ne m'arrivent pas assez vite, etc. Ce sont des questions pratiques. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Ce sont des questions pratiques. Mais alors là, le problème auquel on se heurte, c'est de savoir dans quelle mesure ça doit être ces problèmes qui sont essentiellement techniques, sont des problèmes de bibliothécaires ou c'est des problèmes d'ingénieurs qui sont chargés de fournir le matériel et quelle doit être la connexion entre les deux. Alors là, c'est un problème qui, évidemment, est un problème qui est difficile, mais ne me présentez pas comme quelqu'un qui est dans sa grotte.
Alors, on en arrive, en fait, à l'évolution. Donc, on parlait de l'évolution des programmes, oui. On en est presque à l'évolution du métier. Justement, comment voyez-vous le conservateur d'hier et le conservateur de demain ou d'aujourd'hui ? Est-ce que vous... Parce que inévitablement, il est confronté à l'évolution de ces nouvelles technologies et de leur utilisation.
C'est-à-dire, je pense que le conservateur doit être extrêmement proche de ses clients. C'est-à-dire, je pense qu'il doit regarder très près ce que veulent les gens, ce qui implique une formation quand même de culture générale. Et je pense qu'à partir de là, il peut voir, il est plus facile pour lui de voir les moyens à utiliser.
Oui, non, j'ai souri parce que vous avez employé le mot client. Vous êtes contre le marketing, mais vous employez le mot client. Alors que nous, c'est vrai que couramment, on parle plutôt des publics et des utilisateurs. C'était une simple.
Oui, d'accord. Non, mais enfin, si vous voulez, je ne.
Pour vous montrer. Non. Oui.
Oui.
Mais sinon, oui, donc l'aspect de. Est-ce que les programmes correspondent à ce qu'on attend du conservateur ou du métier de conservateur ou ce qu'on souhaite qu'il.
Alors là, honnêtement, je ne connais pas assez les programmes de l'ENSIB pour pouvoir vous répondre. Depuis quelques années, je ne les connais pas. Je les connais que indirectement parce qu'il m'en a été dit, n'est-ce pas ? Mais je ne les ai pas vus directement. Donc je ne peux pas vous donner une réponse stricte, si vous voulez. Ce que je pense, en fait, c'est qu'il y a quand même un problème de différenciation. Trouver ce qui est commun entre un bibliothécaire scientifique et quelqu'un qui travaille au manuscrit de la Bibliothèque nationale, c'est quelque chose que je vois qui est assez difficile, n'est-ce pas ? En revanche, ce qui me choque, c'est de voir trop souvent le spécialiste du marketing à la tête de l'établissement, parce qu'il n'a pas les compétences nécessaires sur le plan scientifique ou culture générale.
Il peut s'appuyer sur une équipe de personnes compétentes et spécialisées dans les domaines.
Mais écoutez, vous me donnerez là... Hors caméra, vous me donnerez des exemples et je vous en donnerai.
Alors en fait, c'est vrai qu'on arrive un peu aussi à l'évolution des méthodes d'archivage. Inévitablement, bon, la bibliothèque, instrument de conservation ou lieu de conservation, les méthodes d'archivage et d'archivage électronique sont aussi à prendre en compte et leur évolution.
Oh bah bien sûr, ça c'est pas, y a pas de, si vous voulez. C'est pas ça que je critique. C'est pas ça que je critique. Je critique ce qu'il peut y avoir dans l'aspect marketing de publicitaire. Voilà, oui. C'est ça que je critique. Je ne critique pas du tout le problème de la nécessité d'un certain nombre d'instruments. Mais ce que je dirais, c'est qu'on peut vous enseigner, et ça j'en vois bien, j'en connais bien des exemples, de superbes méthodes d'archivage électronique. Si vous ne savez pas ce que vous archivez, pour qui vous les archivez, pourquoi vous l'archivez, eh bien vous faites un bide. C'est mettre les moyens avant la finalité. Donc je crois que si vous voulez, les méthodes d'archivage et autres qui changent tout le temps, il est inutile d'insister. Vous savez, moi à l'ENSB, j'ai fait partie pendant 30 ans du jury. Et chaque année, je voyais des élèves absolument convaincus, ou qui semblaient convaincus parce qu'ils avaient un examen à passer, qui arrivaient en vous expliquant que tel truc qui portait tel sigle était un truc formidable, et l'année suivante, c'était plus ça que celui qui était à la mode, c'était l'autre. Alors, en fin de compte, les malheureux à qui on a appris ça, au bout de quelques temps, ils n'avaient plus du tout, si vous voulez, ils avaient complètement à se renouveler. Et c'est là que je dis qu'il ne faut pas confondre les instruments et la finalité. Si vous voulez, pour les histoires de catalogage des bibliothèques, je pourrais vous raconter, je ne me rappelle plus les sigles qu'il y avait. Il y avait des sigles magnifiques, Capard et Canac. Vous n'avez jamais entendu parler de Canac et Capard? Les fiches Canac, les fiches Capard, tout ça s'est passé. Bon, ben, passer 6 mois à parler des fiches Canac, ça n'arrivait à rien, puisque maintenant Canac et Capard, c'est autre moyen, si vous voulez. Donc, ce n'est pas ça la finalité. Moi, quand je suis sur mon ordinateur, j'ai des bases de données, je fais des statistiques, je fais des trucs comme ça. Mais pour moi, je réfléchis, je me dis, c'est ce qu'il faut que j'aie, est-ce qu'il y a l'instrument? Vous voyez, c'est là, je pense, qu'il ne faut pas privilégier l'instrument sur la finalité.
Oui, et donc une bibliothèque ne doit pas être une entreprise, en fait. C'est un peu ce que... C'en est une, quand même, sous une forme.
Ah, dire qu'elle ne doit pas être une entreprise...
Non, vous avez parlé tout à l'heure de marketing, d'image commerciale.
Une bibliothèque doit être... J'ai appris une entreprise, je dirais une usine, si vous voulez.
Oui, c'en est une.
Si vous voulez. C'est-à-dire, mais il est bien évident, vous comprenez, que le... Mais vous savez, je crois qu'il y a quand même une grande partie de ces choses-là qui sont une partie de bon sens. C'est un peu le même problème que pour les professeurs. Vous prenez un type qui a peur de ses élèves, vous lui enseignez pendant 6 mois, j'ai eu une grande discussion avec ma femme d'ailleurs là-dessus, et vous lui enseignez pendant 6 mois des techniques qui sont des techniques pédagogiques, il fera peut-être des petits progrès, mais ce ne sera pas génial, parce que si vous prenez un type qui a ça dans le sang, eh bien, il n'a pas besoin d'apprendre à le faire, si vous voulez. Puis au fond, ce qu'il faut apprendre aux gens, je pense, dans une école, c'est à aimer leur métier, et leur apprendre le sens du service public. Alors ça, leur apprendre qu'ils sont là, non pas pour eux, mais pour les autres, alors là, c'est quelque chose qui est utile, vous comprenez, qui sont au service des autres. Et il y a une chose qui est oubliée actuellement en France, c'est que la fonction publique est un titre de noblesse, c'est d'être au service de la collectivité. Ça, leur apprendre ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je ne suis pas besoin de remplacer les cours de communication par des cours de morale.
C'est peut-être pas spécifique d'ailleurs au métier des bibliothèques.
Oui, c'est pas spécifique au métier des
bibliothèques. Je voudrais aussi donc vous demander, l'ENSIB donc a le monopole de la formation des conservateurs de bibliothèques, et vous savez donc maintenant, les fonctionnaires territoriaux sont aussi formés donc à l'ENSIB, oui, comme les fonctionnaires de l'État. Que pensez-vous de cette homologie de formation?
Ben, il me semble que c'est bien heureux. Il me semble que c'est bien heureux parce que cette rupture, enfin si vous voulez, la régionalisation dans des corps qui ne sont pas tellement nombreux, me semble quand même quelque chose de gênant. La France n'est pas un agglomérat de régions. Que les fonctionnaires régionaux aient du problème pour passer dans d'autres régions, d'après ce que j'ai compris. Vous savez, ça, c'est un peu postérieur aux époques où je m'occupais avant toute question professionnelle. Ça me semble quelque chose de regrettable. Si vous voulez, la régionalisation, c'est peut-être quelque chose d'utile, mais elle a quand même pas mal de contreparties. Encore que quand j'étais à Lyon, j'étais tout à fait partisan de la régionalisation et tout à fait hostile au centralisme parisien.
Par rapport à l'ENSB, l'ENSB, les conservateurs qui étaient formés par l'ENSB avaient un an de stage avant d'être titularisés dans le cadre de leur fonction.
Oui.
Et l'ENSIB, la scolarité de 18 mois, qui inclut les périodes de stage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ou ce que vous en pensez? Parce que tout à l'heure, vous avez justement parlé de l'importance des stages.
Oui. Alors, je vous dirais que pour des étudiants que je connais, les notes de stage qui m'ont été communiquées m'ont profondément surpris et m'ont donné l'impression que les gens qui donnaient les notes avaient une vision assez curieuse des individus. Je pourrais vous montrer des ratés absolument superbes. Pas faire de personne, mais de gens collés à la suite de stages comme ça, et qui ensuite se sont avérés dans une branche très parallèle de très brillants professionnels. Et je pense qu'il est très difficile de juger lors d'un stage véritablement quelqu'un. En revanche, je pense qu'au bout d'un an de métier, on peut à ce moment-là balancer quelqu'un. Et je dirais que dans une école, le grand risque, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui a passé un concours. On finit par trouver qu'il est brave, puis on le laisse sortir. Puis après ça, il devient un fardeau pour la société. Et je pense que là, il est beaucoup plus commode de le... Je pense que si vous voulez, le stage, l'année probatoire, je dirais l'année probatoire, ça me semble être quelque chose de pas mal. Si vous voulez, je parle aussi bien d'ailleurs, je dirais, pour l'école des chartes que pour l'ENSIB. Bah, combien de fois est-ce qu'on voit de temps en temps un garçon ou une fille dont on dit « Oh, est-ce qu'on va le coller ? Il a déjà passé 2 ans, il a déjà passé 3 ans. » Et on n'a pas le courage de le coller, on est quand même des êtres humains, même quand on est professeur et mandarin. Et on a tort. Tandis qu'au bout d'un an de métier, bah, le conservateur, lui, aura des réactions d'autant plus brutales que le type qui ne travaille pas, c'est les autres qui vont faire son boulot. Hein. Alors, je pense que là, si vous voulez... En revanche, si vous voulez, les stages un peu courts qu'on est obligé de faire au bout de 2 ou 3 mois, alors là, j'ai vu les résultats qui étaient des résultats bouffons, surtout que tu es obligé de s'adresser à des tas de gens pour faire ça. Je pense qu'il vaut mieux quelque chose de plus long. Enfin, c'est une impression, je n'avais pas réfléchi au problème, si vous voulez. Vous me demandez ça, je vous dis, je suis quand même maintenant assez loin de ces questions professionnelles depuis plusieurs années.
Vous êtes
est-ce que c'est votre avis, vous?
Je pense qu'une longue expérience dans un établissement, moi qui proviens de l'interne, bien sûr, je peux vous dire qu'effectivement c'est positif par rapport à quelqu'un qui n'a aucune expérience. C'est beaucoup plus aléatoire, effectivement, de le larguer dans un établissement.
Ouais, je pense qu'un an de stage, c'est au bout d'un an, on voit bien ceux qui ne donneront rien.
Oui. Oui, au bout d'un an, oui. Mais bon, là, l'ENSIB quand même inclut dans son programme différents types de stages, puisqu'il y a un stage d'immersion, un stage de 3 mois et ensuite un stage d'un mois précédant la prise de fonction. Donc, il reproduit le profil du poste qui va être occupé. Donc, il y a déjà une expérimentation qui est...
En tout état de cause, ce que je dis, c'est que dans une école, vous savez, il y a un grand principe, c'est que dans toutes les écoles, y compris polytechnique et normale, et même l'école d'administration, et surtout peut-être l'école d'administration, il y a toujours le même nombre de crétins. Et par conséquent, il faut savoir quand les liquider.
Et alors, bon, même si vous êtes un peu, donc, comme vous dites, déconnecté de ces questions de programme, donc vous en avez, je crois, un peu parlé tout à l'heure quand vous avez parlé de la recherche. L'ENSIB donc propose 2 types de filières, une filière professionnelle et une filière recherche. Que pensez-vous justement de la participation universitaire au programme, donc, et même du partenariat universitaire pour les programmes et les formations assurées par l'ENSIB?
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qu'on fasse venir des professeurs de l'université pour faire des enseignements dans les domaines qu'ils connaissent, c'est quelque chose de très bien. Mais le grand risque par rapport à l'université, je m'excuse, j'en suis, si j'ose dire, donc je me critiquerai moi-même, c'est que le professeur d'université est quelqu'un qui a souvent tendance à parler de ce qu'il ne sait pas. Et qui, comme il parle bien, réussira à faire passer n'importe quoi sur ce qu'il ne sait pas. J'ai vu dans une université parisienne que je ne nommerai pas, un secteur se faire dans le domaine des communications, et, etc., avec des prétentions scientifiques qui étaient totalement bidons, point que je n'ai pas répondu à leur dernière lettre, n'est-ce pas ? Et je crains un peu le vide du discours universitaire. Et je ne partage pas l'admiration qu'on peut avoir sur les universitaires qui parlent de tout. Je pense qu'il faut s'adresser aux universitaires pour leur faire parler de ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui corresponde au métier de bibliothécaire ou qui corresponde à l'exercice pratique, à la pratique de l'exercice d'une profession. C'est là toute la difficulté, d'ailleurs, des enseignements professionnels. C'est très difficile. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ces problèmes d'enseignement professionnel. Si vous voulez, c'est très difficile de faire un enseignement professionnel. Et je pense que les enseignements courts sont les meilleurs. Ça doit être des enseignements de motivation.
Oui, est-ce que vous pourriez donc nous redire de façon compacte éventuellement quelles ont été en fait les conditions du déménagement en fait de l'école et de l'installation de l'ENSB et ensuite donc à Villeurbanne.
Les conditions de déménagement de l'école, c'est très simple. Les cours étaient faits à la Bibliothèque nationale dans une salle, dans des salles qui dépendaient du département de la musique. C'était trop petit, il fallait refaire une construction, et à ce moment-là, quand on l'a demandé au ministère, l'aménagement du territoire a répondu qu'elle donnerait tous les crédits qu'on voulait à condition d'aller en province, dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, et on a choisi Lyon, parce qu'à Lyon, il y avait un réseau de bibliothèques pour lequel on avait dépensé pas mal d'argent et qui venait d'être créé, et on a donc pensé que c'est à Lyon qu'il fallait l'installer. Alors on l'a installé à Villeurbanne et les plans étaient faits par mon ami Bletton. Ça a été aussi simple que ça, et le directeur des bibliothèques a accepté, parce qu'on a mis à ce prix les agrandissements de la Bibliothèque nationale. Il y a eu un marchandage.
Oui, ça a marché, une négociation.
Il y a eu une négociation, et ça, il me l'a expliqué très carrément. Denry me l'a expliqué très carrément. Ce qui était d'ailleurs... à Denry, les problèmes de la NSB, il trouvait que c'était très difficile à régler. C'était pas sa tasse de thé, et sa tasse de thé, c'était la Bibliothèque nationale, plus.
Oui, donc...
Oui, enfin, je ne veux pas être méchant, j'aimais bien Denry, mais oui. Ça a été ça, je l'ai vu. Il était question que je sois directeur, et il m'a dit, Martin, je ne sais pas si je ne serais pas obligé de retourner à Lyon, ce qui ne me plaisait pas bien.
Et donc, alors, pour rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que vous pensez que d'autres installations auraient dû suivre parallèlement à l'ENSB et s'installer éventuellement dans l'environnement de ce pôle du livre ou de...
Je dirais que toute école a besoin d'un support... recherche. Je vois très mal que l'ENSIP soit autre chose qu'une école d'application, pour la raison simple que si on veut faire une école plus longue, eh bien, on va sacraliser les techniques, puisque on doit fabriquer des bibliothécaires, aussi bien qu'ils soient des scientifiques que des littéraires, qui travaillent dans des conditions tout à fait différentes. Ce qui est commun, c'est les techniques entre eux. Donc, ça doit rester une école d'application. Mais pour faire une école d'application de haut niveau, il faut qu'il y ait des laboratoires, il faut qu'il y ait des bureaux. Et ma foi, en France, on souffre beaucoup qu'il n'y ait quand même pas de bureaux techniques et de théories bibliothéconomiques. Je prends qu'un seul exemple, les classifications. Les classifications, en France, personne n'est foutu de s'occuper des classifications. Il faudrait donc des services de recherche qui soient installés à côté de l'ENSIB et qui contribue à fournir un personnel enseignant qui serait chercheur sur la profession et qui ne soit pas des chercheurs universitaires qui parleraient d'une profession qu'ils ne connaissent pas.
Je pense que nous arrivons au terme de notre entretien. Est-ce qu'on peut vous demander ce que... au titre de votre participation donc, aux bibliothèques, ce dont vous pouvez être fier?
C'est c'est avant tout ce que j'ai fait à Lyon, pour parler franchement. Et c'est la chose qui est le moins reconnue pour moi. C'est peut-être à cause de ça, vous savez. On dit toujours qu'un écrivain est toujours content du... Enfin, défend toujours le livre qui a eu moins de succès. Et c'est ce que j'ai fait à Lyon parce que j'ai eu l'impression de travailler pour une collectivité, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'épatant. Sans ça, l'autre chose dont je suis content, c'est d'avoir dans une certaine mesure réussi à réconcilier les chartistes et les autres. Je crois que maintenant, il n'y a plus de problème. Et ça, j'en suis content. La chose que je regrette le plus, et ça concerne les bibliothèques certainement, c'est que sur le plan de la recherche, j'ai développé une discipline qui s'appelle l'histoire du livre, que je n'ai jamais voulu jouer le jeu des universités ou du CNRS pour faire le grand centre d'études d'histoire du livre qui existe en pensant que ça devait être dans les bibliothèques. Et de ce point de vue-là, je peux dire que j'ai été trahi parce que je n'ai pas été suivi et que malheureusement, ce qui concerne l'histoire du livre et le patrimoine, eh bien, ce que j'ai pu faire est une sorte d'alibi pour ne rien faire d'autre en France. Et c'est là le grand regret que j'ai.
Perrier, qu'il y a autre chose à nous signaler qui pourrait être remis en question. Donc, outre le fait que n'ait pas encore été honoré l'histoire du livre et le patrimoine à vos yeux.
Quelque chose qui pourrait être remis en question. La question que je me pose au fond, pour vous dire très franchement, c'est que je me demande si on pourra maintenir ou non l'unité du corps. Moi, je serais assez attaché à l'unité du corps, mais je finis par me demander si les choses étant ce qu'elles sont, il ne devrait pas y avoir une division du corps qui soit entre d'un côté un corps de chercheur et de l'autre côté un corps de gestionnaire. Si vous voulez, je ne vois pas exactement les applications qu'il peut y avoir, mais c'est une question que je me pose.
Donc des gestionnaires qui seraient affectés au fonctionnement des établissements, des bibliothèques et des métiers du livre, et
oui,
puis
et puis
un corps de chercheurs.
Par exemple, je pense que dans le cadre des régions,
oui.
D'avoir des gens qui soient plus spécialisés. Enfin, je pense surtout au patrimoine, évidemment, parce que le patrimoine oui. Est la chose avec laquelle, en prenant de l'âge, je me suis le plus attaché, puisque c'était mes fonctions à l'école des chartes. Si vous voulez.
C'est en développement. Il y a de nombreuses formations sur le patrimoine qui sont conduites maintenant, même sur le plan régional.
Il y a une chose qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a, un inventaire général pour les monuments, il n'y en a pas pour les livres, c'est quand même un scandale.
Donc vous nous avez parlé longuement sur ce qui a motivé notre venue auprès de vous, donc au sens sur votre expérience, sur la profession et les aspects sur peut-être certains objectifs qui pourraient être poursuivis. Est-ce que vous voyez autre chose que nous aurions oublié de vous demander et que vous pourriez nous donner comme élément d'information ou de réponse à certaines questions qui pourraient se poser? Est-ce que...
Je ne vous ai pas parlé de la très grande bibliothèque. Mais là, je dirais que les jansénistes nous ont appris qu'il y a une formule, le silence respectueux, qu'il faut appliquer. Pour le reste, non, je ne vois pas beaucoup de sujets que je pourrais reprendre concernant les bibliothèques. On a peut-être dit ou sous-entendu l'essentiel. Voilà, c'est l'impression que j'ai.
Bien, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir et de répondre.